Le festival Vue du Québec à Florac revient.
Ah ben enfin des bons films.
Du mardi 8 au dimanche 13 avril.
Oui, lieu.
44 films.
Une quinzaine d'invités.
Une compétition de courts et de longs métrages.
Des ateliers pour découvrir le 7e art sous tous ses aspects.
Et le mercredi à partir de 10h.
Un plateau radio exceptionnel en direct de La Pompe.
Sur Radio Bartas,
107 FM.
Et qu'est-ce qu'on est bien en direct de La Pompe, hein. Le soleil pointe, le bout de son nez, on est en direct effectivement, Daniel est toujours avec moi, on est bien.
On est bien,
franchement.
On est bien, on est tranquille comme ouais. Vous dites, hein, tranquille.
Tranquille, alors vous pouvez aller voir les films à la Jeunette Verte, des films extraordinaires et puis il se passe plein de choses partout. Léo vous fera un petit point en dernière partie de plateau pour vous expliquer un peu toutes les soirées qui vous attendent. C'est la fête à Florac, le cinéma québécois est à l'honneur et c'est avec grand plaisir que j'accueille, alors je vais faire dans l'ordre parce que forcément tout le plateau, nous sommes avec Chloé Le Riche, bonjour. Et tu es avec nous, Léo. Toi, bien, on est bien. Chloé Le Riche, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vraiment. Et Joël Vaudreuil, bonjour.
Salut.
Merci beaucoup d'être avec nous deux. Alors, Chloé, tu as réalisé, scénarisé Soleil Atikamekw. C'est comme ça qu'on dit. Hein.
Oui, exactement. Atikamekw.
Atikamekw. On va en parler avec toi dans un instant. Et toi, Joël, tu as réalisé Adam change lentement.
Oui.
Un film extraordinaire qui sera d'animation qui sera diffusé samedi à partir de 18h. Et un court-métrage aussi, on en parlait tout à l'heure. Hein, un vortex d'en face, juste avant. Vous n'êtes pas seul. Commençons par toi, Chloé. Comment on écrit un scénario, enfin un documentaire, comment on pourrait le définir un peu, Soleil Atikamekw?
En fait, c'est une fiction. J'ai vraiment eu un budget de fiction. Puis c'est comme en fait un... Comment on appelle ça, là?
On a tout notre temps.
Un hybride.
Pardon? Hybride. C'est un hybride, oui. Oui, c'est un hybride, documentaire et fiction. Et j'ai commencé par faire une grosse recherche pendant plusieurs années, peut-être 2 ans, pour un peu... Donc, c'est un film qui s'inspire de faits vécus. Et donc, j'ai fait une recherche pendant peut-être, 2 ans. Je suis allée... Bon, il faut vous raconter un peu vite, là, mais en fait, c'est un événement où 5 jeunes Atikamekw ont péri et c'est une voiture qui a été renversée dans une rivière et il y avait 2 conducteurs blancs et et le lendemain, quand ils sont allés à la police n'a pas enquêté. Et tout de suite, en fait, ils ont même recueilli une déposition conjointe, ce qui ne se fait pas dans la police au Québec ou en France ou ailleurs, là, depuis tous les temps. Donc, j'ai quand même fait une recherche, tant du côté des Atikamekw, pour revenir un peu sur leur façon, la manière dont ils ont vécu ça et tout, leurs souvenirs, et une recherche aussi du côté de la police, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai pas interviewé, par contre, les 2 Québécois qui sont...
qui ont survécu.
Qui ont survécu et qui sont, selon les membres de la communauté, responsables ou peut-être même meurtriers. Donc, eux, je n'ai pas osé les rencontrer.
La question que j'allais te poser. Ouais. C'est un choix ou c'est vraiment parce que, tu l'as dit, tu n'as pas osé y aller? En fait.
J'ai pas osé, en fait. Puis, je suis quelqu'un qui a quand même pas mal de guts dans la vie. Puis, au départ, je pensais y aller, mais plus j'en apprenais sur eux, moins ça m'intéressait de les rencontrer. Puis, je me suis dit, mais ça ne me sert à rien. Je n'ai pas besoin de leur point de vue. C'est vraiment carrément inutile. Puis le film, vraiment, donne la parole aux familles des 5 victimes. C'est ça qui est important, puis c'est ça qui est, en fait, assez intéressant. J'avais aucun souci... Mais en fait, c'est pas vrai. J'avais quand même, au niveau éthique, j'avais quand même un souci de me coller aux faits. Et j'ai fait beaucoup de démarches, notamment avec la police, pour avoir ce qu'on appelle, nous, les lois, l'accès à l'information. J'aurais voulu avoir les dossiers de la police, mais ça m'a toujours été refusé. Mais dans les familles des victimes, une des 5 victimes avait une fille qui est devenue policière et qui a marié un enquêteur de la GRC, oh, qui, lui, a eu accès au dossier policier. Et donc, ma recherche s'est basée sur les faits. Puis je m'en suis tenue donc aux faits autant que possible. Il y a très peu de fiction dans le film, bien que j'appelle ce film une fiction, aussi pour des raisons légales, soyons honnêtes.
Oui. Ouais, alors, il se passe plein de choses. Hein. Alors, on est aux portes du documentaire, quand même, même si c'est une fiction. Moi, je trouve qu'on est dans ce truc. Enfin, j'ai été happé par tout ce qui se passe. Il y a plein de thématiques qui sont abordées. Alors, j'ai eu peur en voyant le film et en me disant comment je vais aborder son interview et comment on va en parler, de me dire que de parler de peuple autochtone et d'employer ce genre de mots dont nous, en France, on n'est pas super habitués. Est-ce que je me...
On ne va pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, comme on dit au Québec. parler librement, ça va. Je pense que c'est un film qui a été fait avec beaucoup d'attention. Et puis, on est tous ici bienveillants, donc ça va. Allez-y librement.
Il y a le problème d'addiction aussi qui est présent, l'alcool, etc. Et je trouve que c'est un peu ancré quelque part. Est-ce que c'est un problème aussi là-bas pour ce peuple notamment
Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est assez présent. C'est-à-dire que, mais vraiment, en fait, je me suis fiée au fait. Puis les deux conducteurs blancs sont débarqués avec à peu près 5-6 caisses d'alcool. Et ils avaient aussi des bouteilles de phare et ils en donnaient généreusement à tous les jeunes. Donc ça, c'était aussi particulier. C'était pas une fête normale. Il faut savoir que en 1977, ces événements-là ont eu lieu. En 1972, la communauté, le chemin qui relie la communauté à une ville a été construit. Donc, et c'était encore très rare qu'il y ait des Québécois qui débarquent comme ça dans une communauté atikamekw à l'époque. C'était vraiment, en fait, c'était même, il y avait un panneau à l'entrée du village qui disait que les visiteurs devaient partir avant 8 heures le soir, par exemple, alors que ces deux hommes-là étaient là toute la nuit. Et ouais, voilà. Donc, mais oui, sinon, la question de l'alcool, chez tous les gens, en fait, qui sont qui vivent dans des situations précaires, hein, pas que les Autochtones, là, je pense que c'est un problème qui est beaucoup plus vaste, qui n'est pas propre à eux, là. Mais on sait, parce que vous avez sans doute les vieilles images des colons qui sont débarqués avec des bouteilles de phare en échange de fourrure. Je ne suis pas sûre que tout ça ait commencé là, mais peut-être.
Non, puis ton film est tellement authentique.
Ouais.
Tes comédiens sont formidables. Tu fais toujours une direction d'acteurs et d'actrices formidables parce que les acteurs et actrices autochtones n'ont pas la chance de tourner tant que ça, mais ça paraît jamais quand ils sont dans tes films.
Ils n'ont jamais la chance de tourner.
C'est ça,
moi,
exact.
Tu sais, quand j'ai commencé à faire du casting, puis après, j'ai même rempli les banques de casting de plusieurs personnes à Montréal bénévolement parce que je me disais, mais il faut les mettre de l'avant, il faut que ce soit eux qui participent à raconter leurs histoires.
Exact.
Et tu sais, ces comédiens-là, ils avaient non seulement pas d'expérience en jeu, mais on avait seulement 2 jours pour les préparer. On n'a eu aucune répétition. À cause de la COVID, c'était vraiment quelque chose, donc... On a créé quelque chose en 2 jours dans un gymnase d'école. Et ce qui est un peu la clé des performances, il y a 2 choses. C'est vrai que je suis une bonne directrice d'acteur. Mais, au-delà de ça, le peuple atikamekw, c'est vraiment des gens qui sont hyper sensibles. Leur langue, déjà, c'est une langue qui évoque, c'est vraiment un peuple à la base très, très sensible, d'hyper sensible, en fait. Et les acteurs qui jouent dans le film avaient un lien, de près ou de loin, avec les 5 victimes. Donc, ça aussi, le fait que c'était ancré, c'est un drame qui a tellement marqué l'histoire des atikamekw que c'était beaucoup plus facile pour eux d'aller vers des émotions sincères puis d'amener une intensité sur le plateau de tournage. Tout le monde était là pour la cause. Alors,
oui, bien, c'est ça, c'est une façon de leur rendre justice à travers ton film. Bravo, bravo. Et je tiens à dire, son film a remporté plein de prix, tellement mérité. Le prix de mon association de critique, l'AQCC, l'Association québécoise des critiques de cinéma, et très récemment, le prix collégial du cinéma. En plus de prix aux États-Unis, dans les Indies, 3 prix.
4.
4, wow! Ouais.
Bim.
En fait, on est rendu à 26 prix.
3, 4, non.
On est rendu à 26. C'est complètement fou. Wow. Et j'ai même pas de distributeur à l'international. J'ai arrêté de distribuer le film il y a 6 mois. Donc, enfin, c'est bien.
Ouais. Je me pose la question, moi, comment on écrit un film pareil? Parce que je ne sais pas comment... tu regardes le film, tu es porté par le truc, on est entre le documentaire et le film, etc. Il y a une histoire vraie derrière. Comment tu as écrit, en fait? Comment ça s'écrit, un film comme ça, en fait?
Ben, j'ai fait donc de la recherche, vraiment. Je suis allée parler à tout le monde qui était présent, mais même aux enfants qui avaient assisté à cette époque-là, tu sais, juste pour avoir leur vision. Et je te donne un exemple. Il y a une petite fille, il y a une femme de mon âge qui avait 4 ans à l'époque du drame qui m'a dit « Je me souviens, le ciel est devenu noir ». Moi, c'est les notes que je prenais. Et je me disais, ah, tiens, c'est intéressant, ça. Pour une enfant de 4 ans qui a entendu des cris au loin, que sa famille sont venus la chercher et tout, je me suis dit, elle, c'est ça, sa mémoire de cet événement-là. Et parce que moi, j'avais de la difficulté, en fait, à leur demander. Tu sais, j'ai travaillé avec les parents des 5 victimes qui avaient presque 80 ans. Et je trouvais ça compliqué de leur demander directement, « Bon, parlez-moi de ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé, comment vous l'avez vécu? » Alors, j'ai plutôt... j'étais tellement mal à l'aise que spontanément, j'ai commencé à leur poser des questions que me posait mon prof de création littéraire à l'université, qui était... je me rappellerai toujours d'un professeur que j'avais pas trop aimé, qui m'avait demandé au premier cours, qui demandait à tous les étudiants, qui disait « Décrivez-vous par une forme et une couleur. »
Ah, mon Dieu! Puis,
on aime-tu ces questions? Par exemple, triangle mauve.
Alors, justement, découvrez-vous.
Hein? C'est ça. J'adore. Puis moi, j'étais hyper révoltée dans ce temps-là. Puis j'étais là, voyons, donc qu'est-ce qu'elle veut que je lui réponde? Long, brun. Voilà, bonne chance. Excusez-moi. Mais donc, c'est ça. Et pourtant, quand j'ai rencontré donc, ces aînés-là qui avaient vécu ce drame-là, je leur ai posé des questions qui venaient un peu de ce prof-là, limite ésotérique, mais qui était, je me rappelle, une de mes premières questions, c'était, j'avais demandé à la mère de Denis, je lui demandais, « Et si votre fils était un animal, quel animal serait-il? » Puis elle m'avait regardée complètement décontenancée en se disant, « Mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? De quoi elle parle? » Mais Sauter, tout de suite à côté, me dit « Ma femme serait un cheval. » Parce qu'après la mort de Thérèse, j'ai commencé à... J'avais plus rien. J'ai passé mes journées à m'occuper de mon cheval. Tranquillement, c'est à Thérèse que je parlais au fil des jours. Donc, c'est comme ça que le film s'est fait. Je me suis rendu compte à un moment que les faits... tout ce que vous allez voir dans le film, c'est vraiment très, très collé à la réalité. Mais les faits m'intéressaient moins que ces histoires-là, un petit peu en parallèle, où les gens se décrivaient, puis décrivaient un peu ce qu'ils ont vécu ces semaines-là. C'est ce qui fait que le film est vraiment plutôt porté sur le deuil, plutôt que l'histoire, puis les faits en tant que tels. C'est comment on vit ça, un deuil comme ça.
Tu parlais de prof, t'es aussi un peu rentrée en mode formatrice, puisque t'as participé à, je crois, plus de 200 courts-métrages en tant que formatrice. Est-ce que c'est fort de cette expérience-là que t'es partie là-dedans?
Tout à fait. En fait, moi, bien que j'ai du sang autochtone là, du côté de mes ancêtres, je ne me mets pas de l'avant comme quelqu'un des Premières Nations parce que je ne les connais tout simplement pas. Même dans ma famille, moi, c'est des gens qui avaient quitté leur communauté il y a très longtemps, qui, déjà, du côté de mes arrière-grands-parents, on ne parlait plus la langue. Et c'est vraiment quand j'ai travaillé pour Wapikoni Mobile de Manon Barbeau. Et je pense que vous avez passé des films du Wapikoni dans les années
précédentes. Oui, Manon est venue avec le Wapikoni. On avait même une réalisatrice qui a réalisé un court-métrage pendant le festival.
Donc, c'est ça, c'est après cette expérience-là que la nécessité de travailler avec ces jeunes-là. Puis vraiment, moi, j'ai pas fait de cinéma avant ça. Hein. Dans la vie, j'ai pas étudié en cinéma, c'était pas mon but du tout. Je faisais de la vidéo avec 12 $ de budget, le prix de la cassette. Et j'étais très heureuse comme ça. C'est juste la création de l'art vidéo, plutôt. Mais quand je les ai rencontrés... en fait, j'ai fait une rencontre qui a été vraiment fondatrice puis qui a donné naissance à... tout mon travail par la suite. Mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à commencer à faire du cinéma, mais oui. C'est clair que la question de la formation, puis même pendant le plateau, pendant ce plateau-là, parce que je suis aussi productrice du film, et j'ai monté un stage de 2 ans pour les jeunes de la communauté. Il y avait 25 jeunes qui étaient payés pendant 2 ans pour faire des arts autochtones. Puis ça se terminait par 2 mois sur notre plateau de tournage, que ce soit au niveau de la traduction des rushs ou pour participer à la direction artistique du film, par exemple.
Transition toute trouvée pour parler avec toi, Joël, de cet après-midi, à partir de 14h, ici à La Pompe, où nous sommes. Venez, 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 auditeurs, auditrices, réalisateur d'Adam Enchantement. Et cet après-midi, tu vas donner un atelier, créer des films d'animation. Explique-nous un peu ce que tu vas proposer cet après-midi.
Oui, en fait, c'est un peu un retour sur... Moi, je n'ai pas étudié en animation. Je suis tombé dans l'animation par accident.
Puis... L'accident fait bien les choses, ouais, parfois.
Oui, oui, exactement. Puis c'est ça. Donc, les premiers films d'animation que j'ai faits, ça date quand même d'il y a 20 ans. Puis j'ai appris l'animation en faisant. Donc, l'atelier que je vais donner, c'est un peu un retour sur mon parcours puis sur des trucs que j'ai trouvés, comment j'ai développé ma technique pour me rendre jusqu'au long métrage que j'ai fait en 2023. Donc, c'est ça, partir de quelqu'un qui dessine à quelqu'un qui fait un long métrage.
Adam change lentement. Alors, on s'est croisés hier. Je t'ai dit que j'allais te poser cette question-là, pour histoire de ne pas te surprendre. Le dessin m'a dérouté, en fait. Il est assez incroyable. Hein, et, je ne sais pas comment dire. Simpliste, complexe. Il y a Picasso qui disait « J'ai passé ma vie à vouloir dessiner comme un enfant ». Et là, je trouve qu'on est un peu là-dedans. Alors, avant de s'attacher au personnage d'Adam, on regarde le dessin. Et, j'ai pas envie d'y aller forcément. Ouais. Et puis, petit à petit, on rentre dedans. Comment justement, tu as réfléchi ce concept de dessin?
Tout mon travail tourne autour de... moi, comme j'ai appris l'art en général, la musique, le dessin, l'animation, j'ai appris ça par le DIY, c'est-à-dire que, tu sais, travailler avec ce qu'on a, travailler avec ce qu'on a matériellement, mais aussi travailler avec ce qu'on a comme bagage de connaissances. Moi, mon école pour le dessin, c'est des dessins d'agenda au secondaire. J'ai appris à dessiner en faisant des blagues dans les agendas de mes amis. Puis j'ai jamais pris de cours de dessin. Puis il y a de quoi que je trouve très beau là-dedans. Moi, c'est de quoi que j'aime beaucoup, comme spectateur d'art. Là. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus attiré par les œuvres qui ont un propos plutôt que des œuvres que c'est des prouesses techniques. Tu sais, je suis pas nécessairement attiré par un solo de guitare parce qu'il y a beaucoup de notes compliquées. Je suis attiré par quelqu'un qui joue de la guitare acoustique un peu croche, mais qui met tout son cœur là-dedans. Puis ce que je fais en dessin, c'est un petit peu comme ça que je l'aborde. Puis j'aime beaucoup aussi... Je trouve que si un dessin qui te charme pas par sa technique... réussit à te toucher par son propos ou par son histoire, pour moi, c'est comme une double victoire, dans le sens qu'il y a un défi d'écriture qui vient appuyer ce type de dessin-là.
C'est clairement ce qu'on ressent dans la zone.
Et j'ai bien aimé que tu parles de Picasso, parce que, j'ai passé quelques jours à Paris, je suis allé au musée Picasso, et c'est pas fou, je trouve, il y a quelque chose dans ton dessin, oui, qui se rapproche de l'enfant, mais qui est beaucoup plus complexe. C'est comme un bon chef en cuisine. Les meilleurs plats ont très peu d'ingrédients, mais c'est de la meilleure qualité. Mais c'est ça qu'on retrouve dans ce que tu réussis à créer avec si peu. Et Dieu sait que ça fait du bien de voir des longs-métrages d'animation qui sont à des années-lumière, des Pixar, des Disney de ce monde, parce que c'est tout le temps pareil. Ben, là, Joël Vaudreuil, il y a juste Joël Vaudreuil qui dessine comme ça.
Et c'est marrant parce que j'avais mis Pixar loin. On en est loin. En
ah
fait.
Mon Dieu!
Et à la fois, quel regard tu poses justement sur cette génération où Pixar fait quoi, 25 ans? Allez, bon, il y a Toy Story dans les années 90. Mais quel regard tu poses justement sur cette industrie de l'animé aujourd'hui?
Moi, je trouve que c'est intéressant. Moi, je suis pas du tout le public cible pour ce type de film-là. Puis je fais pas de l'animation parce que je suis un fanatique d'animation, puis que je suis, tu sais, la raison pourquoi je fais de l'animation, c'est que pour moi, c'est la meilleure façon de raconter l'histoire que je veux raconter. C'est pas en hommage à quelque chose ou en... Tu sais, les films que je fais, c'est des films que je voudrais voir comme spectateur. Là. C'est vraiment un fantasme de film. J'ai vu, à cause du fait que je fais de l'animation, j'en vois énormément des films d'animation en festival. Puis les films que je fais, c'est toujours le film que j'aurais voulu voir, mais que j'ai pas trouvé. Puis... fait qu'on dirait que j'essaie de répondre à un désir de spectateur, de rencontre artistique par ce que je fais envers moi-même. Là. Je ne sais pas si c'est clair. Là, ce que
je pense qu'en tout cas, j'ai compris, mais est-ce qu'il y a une part de toi, justement, dans cet adolescent de 15 ans?
Oh, oui, ben oui, c'est clair. Puis en fait, la base du projet, la prémisse du film, en fait, c'est un sentiment adolescent que j'ai vécu puis que je trouve super intéressant puis que... tu sais, 30 ans plus tard, c'est comme de quoi qui est très, très près de moi. C'est une espèce de malaise à l'adolescence, c'est-à-dire vivre des situations puis pas avoir le bagage puis les outils émotionnels pour l'affronter puis se sentir un peu comme complètement déconnecté ou spectateur de sa propre vie, tu sais. Puis quand j'ai commencé à faire le film, ma prémisse, c'était pas genre « OK, ça va être trois petites personnes avec des oreilles pointues qu'il faut qu'ils aient porté une bague dans un volcan. » Tu sais, c'était pas... J'avais pas une prémisse précise. Tu sais, ce que je voulais raconter, c'était surtout des émotions adolescentes, des malaises adolescents. Tu sais, je voulais... c'est ça, donc raconter des moments, des situations qu'on rencontre puis qu'on n'est pas équipé pour affronter, tu sais, des émotions précises comme, mettons, vivre le deuil de quelqu'un qui a pas été nécessairement gentil avec nous, tu sais, de créer des espèces de rencontres comme ça, jouer avec les contrastes aussi. J'avais envie d'écrire un film où le danger pouvait venir de quelque chose qui est supposé être réconfortant, puis le réconfort... vient de quelque chose qui, à première vue, nous rebute. Fait que c'était beaucoup ça. Là. Donc, mon storyboard au début, ou mon mood board, c'était plus une liste d'émotions particulières que j'avais envie de raconter. Puis j'ai écrit les scènes autour de ces émotions-là. T'sais.
Et puis l'éloge de la lenteur, quoi, parce que ça, c'est lent à la fois rapide. Oui. Ça rappelle vraiment l'adolescence, en fait.
Ouais.
C'était vraiment imaginé comme ça. Hein.
Oui. Ben, ça, c'est un autre fantasme de spectateur, c'est que souvent, les films avec des protagonistes adolescents, c'est des films très rythmés, très criards. Puis moi, ça me touche pas du tout. C'était pas du tout le type d'adolescence que j'ai vécu. Moi, j'ai été élevé en campagne, tu sais, avant Internet. Fait que, tu sais, l'été, le temps était élastique. Tu sais, j'étais un des seuls de mon âge qui travaillait dans des fermes. Je faisais la traite des vaches. Puis tous mes amis faisaient le party. Puis j'avais comme une espèce d'envie, de rythme autre, mais tu sais, qui faisait en sorte que ma vie semblait encore plus lente et awkward, là, tu sais, comme... fait que je trouvais ça intéressant, puis je trouve que pour raconter, tu sais, le film est un peu construit pour le recevoir avec le point de vue du protagoniste, c'est-à-dire que les décors sont assez plats, c'est assez deux dimensions... puis c'est ça. Donc, un rythme assez lent pour comme faire réaction au film qui ne me touche pas sur l'adolescence, puis rappeler ce que lui ressent comme rythme dans sa vie personnelle.
On va parler de cours parce que je sais que ça tient à cœur aussi. Et évidemment,
oui.
Juste avant, vous n'êtes pas seul, il y a un vortex dans France.
Oui, mais moi,
je n'ai pas vu.
Oui, mais moi, j'aimerais qu'on parle du jeudi 10 avril, parce qu'on a eu Jean-Marc Roy tantôt. Oui. Donc, vous allez vous partager cette matinée-là. C'est demain matin à 10h à la Jeannette Verte.
Oui.
Ton travail, tu dis que tu as appris en faisant de l'animation. Toi, de présenter tes courts-métrages rassemblés comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ou au contraire, ça te remplit de joie de voir l'évolution que tu as eue comme cinéaste d'animation?
Moi, je suis encore profondément amoureux de mes courts-métrages.
Bravo! C'est pas tout le monde.
Non, mais oui, il y a des trucs que j'ai fait plus tôt, tu sais, que c'est moins en phase avec ce que je vis aujourd'hui, mais tu sais, comme entre autres, là, La récréation du midi, le premier film que j'ai fait, dans lequel j'ai mis beaucoup de temps à la scénarisation, tout ça, c'est un film auquel je retourne souvent. Puis je trouve que les premiers amours en art, c'est souvent ce qui te donne le gaz pour continuer à en faire. Puis il y a comme une recherche de, d'excitation puis d'excitation interne face à ce qu'on fait nous-mêmes, tu sais. Fait que souvent quand je fais un film, j'essaie de retrouver l'espèce de plaisir puis la surprise, tu sais, quand on se surprend soi-même, là, tu sais. Quand je me souviens, quand j'ai fini la récréation du midi, c'était comme un des premiers films que j'avais fait que j'étais comme waouh, tu sais, j'ai réussi à faire ça. Fait qu'il y avait comme une espèce de fierté. Puis je trouve que le désir d'y retourner à cette espèce de fierté-là, c'est ce qui donne le courage, en fait, d'affronter les trucs moins le fun dans le présent pour arriver à faire des films. Ouais.
Puis en terminant, on parlait de Pixar, tout ça. Les films hollywoodiens d'animation, c'est des immenses équipes. Je ne sais pas combien de personnes ont travaillé sur ton long.
C'était une très petite équipe.
C'est ça.
Incomparable avec Pixar, mais
c'est là le miracle, ouais, de faire un long métrage d'animation au Québec. C'est miraculeux. Ouais. Chaque film est un miracle en soi, mais un long métrage d'animation fait au Québec, waouh!
Wow. Ouais. Merci, c'est vrai. Mais c'est beaucoup à cause des gens qui mettent l'épaule à la roue. Hein. C'est comme une petite équipe dans un film d'animation, ça implique une petite équipe de gens impliqués très longtemps. C'est surtout ça. Là. Fait que, moi, je suis encore troublé de penser que mon animateur principal est venu à tous les jours pendant 2 ans faire de son mieux pour que je puisse raconter mon idée. T'sais, ces participations-là de gens extérieurs qui viennent mettre du courage puis de la force dans ton projet... Ben tu peux jamais dire merci assez à quelqu'un comme ça. Là. Ouais, c'est très beau.
Justement, un petit mot sur les équipes et avec qui tu as travaillé aussi. Est-ce que c'est la même confrontation avec les grosses équipes ou des petites équipes? Comment tu bosses, toi, avec tes équipes, Chloé?
Non, je crois que c'est très différent parce que moi, j'ai eu une grosse équipe, mais juste pendant 2 mois. Ben, c'est pas vrai. Après ça, il y a la post-production et tout. Mais je sais que nous, en tout cas, on a travaillé en pleine pénurie. Donc, c'était plutôt particulier parce que dans mon équipe, il y avait énormément de gens qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. C'était vraiment très drôle. Ma première assistante à la réalisation, qui est un rôle clé de la personne qui mène le plateau, n'avait jamais travaillé sur un plateau de tournage de sa vie. On n'avait pas de régisseur de plateau, j'ai dû couper des cheveux pendant le tournage, etc. Là. Donc, non, c'est un autre genre d'expérience, mais je comprends ce qu'il dit quand il parle de la reconnaissance vis-à-vis du travail de tous et chacun, parce qu'on a énormément de chance. C'est rare dans la vie que tu as, dans mon cas, c'était une quarantaine de personnes, puis que tu peux dire, allez tout le monde, finalement, j'ai changé d'idée, on ne fait pas ça, on s'en va par là, et voici ce qu'on va tourner, puis que tout le monde embarque, puis tout le monde le fait, tu sais. Puis il y a quelque chose de magique, là, tu sais, quand tu arrives sur un plateau de tournage, tout le monde donne son 100% pour essayer de réaliser des choses parfois impossibles. Je me rappelle, pendant le tournage de Soleil Atikamekw, on avait choisi un lac où la plupart des scènes allaient se dérouler. Puis on avait fait des visites techniques, on adorait cet endroit. Puis quand on est arrivé le jour du tournage, ou la veille, je crois, il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau dans le lac. Et puis nous, il fallait immerger un véhicule. Fait que là, je voyais toute l'équipe faire comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Attends, puis là, trouver des espèces de solutions. Finalement, il a fallu couper le camion en deux pour aller porter le toit du camion dans le milieu du lac. Des trucs comme ça qui sont absolument fantastiques. Puis où c'est juste au cinéma que tu vois ça. Il y a des gens qui réalisent des trucs absolument magiques. C'est assez fascinant. C'est vraiment, ça ressemble beaucoup au sentiment que tu as la première fois que tu développes une photo en noir et blanc dans une chambre noire, puis que ton idée soudain se matérialise ou que la lumière se fait. Là.
Ouais. Ouais.
Soleil Atikamekw de Chloé Leriche, c'est mercredi à 21h.
C'est ce soir.
Ah oui, on est mercredi, oui. Je suis hors du temps, moi, si tu vu du Québec, moi, tout. Bon. Joël Vaudreuil, Adam change lentement, c'est samedi à 18h. Et son court-métrage, Un vortex d'en face, ce sera avant Vous n'êtes pas seul, dont on va accueillir le compositeur de la musique qui est là. Bonjour, Pilou.
Oh, allô.
T'as tout ton temps. On va faire une petite pause musicale. On va t'écouter. On va t'écouter d'ailleurs. Et puis on revient avec toi juste derrière. Merci beaucoup à tous les deux. Excellent festival.
Merci.
Merci.
Et je précise aussi juste derrière que Joël fera un atelier à partir de 14h ici à La Pompe. N'hésitez pas à venir. Oui, Daniel?
Et demain, jeudi, à 10h, il y a aussi les courts-métrages. Tous les courts-métrages.
T'as bien raison. On écoute Pilou et on revient dans 2-3 minutes. À tout de suite.
Tonight I'm striving and I'm trying to tell you how bad I cope with loneliness. Didn't let you go a long time ago. I'm just not that cool with the fact that you did too. And anyways, what we had hadn't been love for a damn long time. Well, it's boiling inside me. I know we agreed we'd be better off without each other. Put on my clothes in a plastic bag with the dog on the back seat of my car. Rebooting my whole life from scratch. No remorse, no looking back. But I guess I just want you to thank me somehow. Or maybe I just need to feel love again. I couldn't care less for all the serene things I think. They're not in sync with all the shitty things I feel. And if I was a Buddhist monk or even just an actual punk, I wouldn't worry all that much. And if I was a Buddhist monk or even just an actual punk, I wouldn't worry all that much. And with a
se lever en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil. Je tire une coupe de pof de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleure mine. Yeah. Le Florida Turnpike, et demain soir j'suis à Montmagny. Non, Trucker, c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y'a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. La question que j'me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, pis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Moi je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'interstate 95, partent en fumée tous les rêves. Un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort. Chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Un autre truck stop d'autoroute, pogné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y'a plus tellement d'amour, yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays, yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi puis les deux filles, et j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game. C'est si triste que des fois, quand je suis loin de la maison, assis dans mon vieux camion, j'ai toute l'Amérique qui pleure.